Lourdes est vraiment un lieu où les plus pauvres, les plus malades, ceux qui pourraient faire des créatures révoltées, viennent reprendre goût à l'espérance. Et non seulement la retrouvent pour eux-mêmes, mais sont capables de la communiquer à d'autres. On vient à Lourdes, on voit toutes ces personnes affaiblies, marquées par tant de handicaps physiques, mentaux, de toutes sortes. Et on s'aperçoit qu'un chemin est possible. Donc, dans ce monde marqué par la violence, par la guerre, par toutes sortes de haines, Dieu ne baisse pas les bras. Alors l'Église doit rester témoin et artisan de ce travail de l'invisible. Dans les pires situations, Dieu travaille. Et l'Immaculée Conception, personne ne savait, personne ne se serait retourné sur les pas de Marie dans les souks de Nazareth. Elle passait inaperçue, comme la naissance à Bethléem est passée inaperçue. C'est à cela que nous devons être attentifs, à ce travail caché de Dieu au cœur du monde. Il ne travaille pas au niveau des forces de ce monde, même si ensuite nous pouvons en voir la fécondité, mais la source est toujours cachée.
Avez-vous le sentiment que les fidèles ont saisi le sens profond du dogme promulgué par le pape Pie IX en décembre, le 8 décembre 1854 ?
Les fidèles, nous en faisons partie, nous sommes tous à une infinie distance. Et de ce dont je me souviens d'un professeur de théologie qui nous disait à Toulouse, mais nous ne pouvons pas nous imaginer ce que ça peut être la psychologie de l'Immaculée Conception. Nous sommes, nous, tellement pris dans nos désirs, dans notre égoïsme et également dans nos peurs, que nous ne réalisons pas ce que ça peut être que de voir Dieu en transparence, en quelque sorte. Non pas de le voir comme un spectacle étonnant, mais comme un courant d'amour qui pénètre ce monde et qui le fait vivre. Ça veut dire être attentif aux petits. Et combien de ces petits, de ces pauvres, de ces malades, de ces Bernadettes d'aujourd'hui sont en fait en harmonie avec ce mystère. On disait de Bernadette, tu ne sais rien, mais tu comprends tout. Alors je veux croire et que au milieu de tous ces pèlerins, de toutes ces foules qui vont venir pendant la saison des pèlerinages et qui mystérieusement sont attirés par cette grotte, par cette présence lumineuse, par cette source, par cette montagne et ce rocher sur lequel on peut s'appuyer pour construire une humanité nouvelle, ce que modestement Marie appelle une chapelle, un lieu habitable pour les hommes en communion avec Dieu, eh bien, je crois que beaucoup le comprennent avec le cœur s'ils ne sont pas capables de l'expliquer avec les paroles, avec des paroles intellectuelles.
Y a-t-il eu un réveil catholique après la proclamation de ce dogme en 1854 ?
Alors, je pense que ce dogme témoigne déjà d'un réveil, notamment dans les pays marqués par la Révolution, la secousse d'un ordre ancien. Je pense que ça pouvait ressembler d'une certaine manière à la destruction du Temple de Jérusalem. L'Église de France était complètement mise à bas. Et on voit bien que dans un petit diocèse comme ce diocèse de Tarbes, au pied des Pyrénées, il y avait un réveil. L'évêque avait créé des collèges, restauré les sanctuaires mariales, créé un corps de missionnaires diocésains pour évangéliser son diocèse à partir de ces sanctuaires. Si bien que quand Marie est arrivée, elle arrivait dans un terrain préparé, pourrait-on dire. Un peu comme je parlais dans la Bible de ce petit peuple des pauvres qui annonçait sa venue, et bien de même, dans cette église qui se réveillait, elle pouvait se trouver déjà accueillie. En quelque sorte, il y avait des Bernadettes pour l'accueillir. Et je pense qu'ensuite, évidemment, elle a provoqué tout un réveil, puisqu'on le voit partir d'un lieu comme Lourdes, c'est vraiment une explosion de joie, de foi, qui se déploie à tel point que des grottes de Lourdes vont trouver jusqu'en Mandchourie ou en Patagonie, jusqu'au bout du monde, dès la fin du XIXe siècle. Donc, c'est vrai que cette période est une période riche d'une Église catholique qui peut paraître, d'un côté, se raidir sur des positions de défense, mais qui, en fait, révèle en même temps d'un élan spirituel, un élan de service, de présence au monde, et qui va d'ailleurs susciter, du coup, aussi des rivalités, des oppositions. Je pense que quand il y a opposition, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vit. Si l'Église était moribonde, elle n'aurait pas suscité tant d'opposition de la part de ses adversaires. L'Immaculée Conception est toujours un défi.
Pie IX espérait une rénovation de la société humaine par l'intercession de la Vierge Immaculée. Plus qu'une espérance, aujourd'hui, c'est une nécessité.
Oui, bien sûr, mais à toutes les époques, il y a donc un défi. Le christianisme n'est jamais une opération tranquille. Elle est un défi à l'ouverture du cœur à ceux qui le dépassent. Et en Marie, nous découvrons évidemment une porte ouverte à l'inconnu de Dieu. Donc ce qui s'est passé, c'est à la fois un réveil d'initiative catholique, mais en même temps, il y a eu bien sûr, au vu des apparences, beaucoup de choses qui restreignaient l'espace de cette Église. La chute des États pontificaux, le pape se considérant comme prisonnier au Vatican, tout cela a pu paraître à beaucoup de catholiques de l'époque comme la fin d'un monde. Vous savez, Marie au pied de la croix est témoin à la fois d'une fin et d'un commencement. Elle reste la maman. Je crois que dans notre monde, comme dans le monde du temps de Pie IX, bien, il y a beaucoup de choses qui meurent, beaucoup de choses qui s'effondrent, et en même temps, tout un courant de renouveau. On ne peut pas prédire ce que cela donnera, mais on peut être sûr que Dieu continue de s'intéresser à notre monde et qu'aujourd'hui encore, Marie s'adresse à Bernadette et lui ouvre et ce bonheur de l'autre monde que les petits seuls savent reconnaître.